Hold on, everybody. Here it comes.
Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 75, ici Richard Delhomme. Dans cet épisode, je discute avec Yvan Roinsart et cet épisode est passionnant à plus d'un titre. Yvan est l'organisateur de Ramène ta fraise, une aventure bikepacking d'environ 300 km à travers la Bretagne ou en travers. Et il faut noter qu'une partie du coût de l'inscription est reversée à une association d'aide aux enfants. Le lien est dans les notes de cet épisode. Également, Yvan reviendra sur la grande traversée du Massif Central effectuée en juin, et surtout un tour du monde avec femmes et enfants, à vélo bien entendu. Également, avant de lancer l'épisode, nous venons de créer notre page Patreon. Patreon, c'est un site où vous pouvez soutenir un artiste ou un podcast si vous le souhaitez. Ça marche sous forme d'abonnement mensuel, avec éventuellement quelques avantages. Ce n'est pas spécialement de gaieté de cœur que je lance cela, mais la situation sanitaire et donc ma situation professionnelle est telle que je suis obligé de passer par un appel à contribution pour pouvoir continuer Spotzol. De plus, la nouvelle version de Spotzol demande davantage d'espace serveur, il faut aussi subvenir à ses dépenses. Le lien est dans les notes du podcast, jetez un œil et soutenez si vous trouvez ça cool. Et sans plus attendre, Yvan Roinsart.
Oui, Richard.
Voilà, là, c'est OK. C'est le bon micro. Bonjour, Yvan.
Allez.
Bah oui, parce que j'étais en train de parler. Voilà, bah, bref. Comment vas-tu ?
Bien, bien, ma foi.
Ouais.
Bien, il fait beau. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Température clémente. Donc déjà, c'est sympa, ça. Pour profiter de l'extérieur, c'est top.
Bon,
et ça va, très bien, je t'en remercie.
Bon, tu sais que ça me fait mal de te dire ça, mais...
Je crois, je m'attends au pire, mais vas-y.
Non, parce non, parce que...
Tu parlais de la Bretagne en...
Oui, bah oui, voilà, tu es encore un Breton, toi aussi tu es en Bretagne.
Et ouais,
mais
et
je
ouais.
vis avec ça, je vis avec ça, et ce et n'est
ouais,
pas grave.
Pauvre.
Mais non, c'est pas grave. Mais toi, tu connais les raisons. Parce que je te les avais racontées au téléphone la première fois où on s'est appelé. Tu sais, tu sais le lien que j'ai avec la Bretagne.
Et effectivement.
Il est plus que positif. Mais voilà, ça c'est mon petit jardin secret. Je le garde pour moi. Et voilà.
Prends le meilleur.
Exactement.
Le meilleur, c'est le principal.
Bon alors, nous on a plein de choses à voir aujourd'hui.
Dis-moi.
On va parler de la grande traversée du Massif Central qui, si je me souviens bien, t'a bien secoué les noyaux.
Oui, faut le dire.
Ouais, on va le dire comme ça. Tu as également fait un tour du monde en famille avec femme et enfant qui t'a lui aussi bien secoué les noyaux.
Ouais.
Et tu es le fantastique organisateur de Ramène ta fraise.
Fantastique, je sais pas, mais organisateur, oui.
Plus ou moins. Voilà. Voilà.
Effectivement.
Bon,
effectivement.
Alors on va dire organisateur de la fantastique épreuve Ramène ta fraise. C'est
ouais,
ça
qu'on a hâte de faire, de partager surtout au plus grand nombre parce que on essaye d'évoluer, de progresser. Il y a toujours à faire et je pense que là on a trouvé quelque chose de sympa, on va dire, qui peut convenir à bon nombre de pratiquants, tout
ouais.
simplement.
Et
ouais,
bien,
ouais,
écoute,
on aura l'occasion d'en.
De... Bon, on va reprendre l'échéancier
ouais.
à rebrousse-poil.
Ah,
tu vas juste commencer par te présenter succinctement, Yvan Roinsart, enchanté. Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu?
Alors, mon cher Richard, je suis breton, pur beurre, on va dire, né à Rennes, habitant Rennes, et ayant vécu quelques années, on va dire, Côte d'Armor, limite Morbihan, enfin voilà. Mais je suis resté en Bretagne, mes études, le premier job, etc. D'un point de vue vélo, on va dire que mon père est cyclotouriste, pardon. Moi, j'ai commencé le vélo à l'âge de 11-12 ans, cyclotourisme, après le VTT, l'arrivée du VTT, on va dire, en 87.
Mmh.
Ouais, début des années 87, avec assez vite des compétitions qui sont arrivées, niveau régional, simplement. Après de la route, parce que pour performer un petit peu en VTT, bah, il fallait faire de la route. un peu de cyclocross, voilà. Et puis moi, j'ai lâché un petit peu le vélo. J'ai continué à rouler surtout l'hiver. Je roulais pas mal à l'époque avec Julien Conan, que tu as interviewé, avec son papa Jean-Yves. Quand j'habitais les Côtes d'Armor, tout ça, on se connaît très très bien. Et je me suis mis à la moto, voilà, moto d'un point de vue sportif, motocross, enduro, mais toujours. Mais je faisais du vélo pour me préparer. J'ai toujours roulé, on va dire un peu moins régulièrement, mais l'hiver c'était mon sport, on va dire. Et puis après, j'ai repris le vélo vraiment de façon voyage, découverte, copains, rencontres. Et puis, fil en aiguille, moi j'aime le voyage, ma compagne aussi, les enfants sont arrivés, et puis on a voulu, alors je te passe toutes les étapes, on pourra en parler un peu plus en détail, mais on a voulu faire...
Non, raconte-moi, comment vous avez fait des enfants, ça m'intéresse.
Alors, tu vois la bouteille de lait?
Oui, ça je me souviens très bien.
Ouais, tu vois, voilà.
voilà, très bien.
Et donc voilà un petit peu mon parcours. Donc les années passent et puis on change un petit peu, mais le côté découverte, dépassement de soi, ça on le cultive toujours un petit peu, on l'entretient. Et puis la vie avance comme ça en fait, avec la façon de voyager, de pratiquer et puis surtout de partager maintenant via Ramène ta fraise, par exemple.
Petite question, tu parlais de ton papa à l'instant. Quelle différence fais-tu entre cycliste et cyclotouriste? Ça m'intéresse aussi.
Ouais, pourquoi pas. Si on parle de mon père, par exemple, il a jamais fait une seule compétition, un seul chrono ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Par contre, il arrivait à faire entre 15 et 20 000 km par an en cyclotourisme, c'est-à-dire en participant à la semaine fédérale du cyclotourisme, en faisant à l'époque les randonnées du coin où il y avait 180 ou 200 bornes, le Paris-Brest, etc. Donc lui, le vélo, ça se résume à de la longue distance depuis toujours quasiment, et puis tout sauf le chrono ou un certain classement. Ouais. Il est vraiment donc on va dire que j'ai plutôt été baigné au départ là-dedans, quoi. C'est-à-dire que je pouvais l'accompagner même assez jeune sur des distances relativement longues quand j'y repense. Et après, quand je parle du cyclisme, c'est plus la personne pour moi qui va s'entraîner régulièrement dans la semaine pour performer le week-end. Là, on est plus pour moi, c'est même si le support elle-même, le vélo, la pratique est un peu différente. C'est un petit peu la différence que je fais entre les deux.
Qu'est-ce qui t'a amené à organiser justement Ramène ta fraise dans toute cette évolution, dans toute cette pratique, l'évolution de cette pratique plus exactement? Qu'est-ce qui t'a amené à découvrir le format plutôt Ramène ta fraise, cette forme de vélo, et à te dire je vais organiser un truc?
En fait, après mon voyage, je me suis aperçu que parfois, ça servait pas forcément d'aller à l'autre bout du monde pour vivre des trucs sympas ou rencontrer des gens qui peuvent vivre à moins de 100 km de chez nous, avec lesquels on va partager un moment, un repas, un café ou autre. Et à partir de ce constat, si tu veux, je me suis dit que ça aurait été sympa d'organiser quelque chose, pourquoi pas dans notre région, sur un format pas spécialement long pour le rendre accessible. En fait, l'idée au départ de Ramène ta fraise, c'était que mes copains de club de VTT qui font leur sortie de 40 km le dimanche matin, on puisse les amener sur quelque chose où ils vont vivre une aventure au coin de la rue, en fait. C'était un peu ça l'idée. Et également découvrir la région. Parce que on a cette chance, hein, Fred Bernard l'a expliqué, ça fait pas longtemps là, d'avoir une région qui se prête quand même assez bien au gravel. Il y a beaucoup de chemins non revêtus. Ça monte et ça descend bien sûr, mais ça reste, c'est pas des cols comme on peut avoir en montagne. Donc ça reste assez accessible. Donc l'idée en fait, c'était de rendre l'épreuve accessible au plus grand nombre. C'était vraiment l'idée, aussi bien au niveau de la distance. Et puis en même temps, au départ, quand on a lancé ça, l'idée c'était, on a même investi, si tu veux, dans des tentes, dans des duvets, enfin sur nos propres fonds pour que les gens en fait ils puissent louer quelque part, mais à un prix vraiment, on essayait de le faire au plus bas, enfin bref, pour pas que les participants ou les potentiels participants aient l'excuse de pas venir, pour pas que nos potes de club de VTT nous disent non, moi je suis pas équipé, j'ai pas la sacoche, j'ai pas le truc. Nous on voulait vraiment rendre ça accessible au plus grand nombre pour leur faire découvrir ce que c'est entre guillemets que l'aventure au coin de la rue. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Donc j'ai fait ça avec Fred Roy, un très bon ami à moi qui habite pas loin de chez moi, qui lui a découvert le gravel un petit peu comme ça, et ça correspondait aussi à l'idée qu'il pouvait se faire de l'aventure, c'est-à-dire partir avec son vélo près de chez soi, puis traverser la Bretagne et en même temps vivre une aventure, dormir dans un bois, trouver un lieu de bivouac et tout ce qui s'ensuit. Donc on va dire que c'était une suite de mon voyage. Ça m'a permis pour moi d'essayer de faire partager ce que j'ai vécu pendant un an au plus grand nombre, à mes amis. Voilà, c'était un peu ça le départ du truc.
Alors, dans les notes du podcast, en plus du lien vers le site, je mettrai également le lien, alors temporairement, parce qu'on va changer de version bientôt, mais le lien vers le récit d'Adrien Cartier sur l'épreuve de l'année dernière. Donc, comme d'habitude, un excellent récit avec des photos toutes plus belles les unes que les autres. Est-ce que tu peux rappeler la distance, le format en général?
Ouais. Alors, ça va évoluer dans le sens où il y a eu deux éditions. Pour faire rapide, la première, on s'y est pris tard en termes de communication, etc., voire de tracé. L'idée, c'était, pour simplifier, c'est de partir d'une gare, d'arriver à une gare, traverser la Bretagne en diagonale. Bon, se raccrocher à une épreuve, on va dire un peu culturelle, folklorique, qui est la fête de la fraise à Plougastel, d'où le nom, ramène ta fraise, pour en fait faire découvrir à des gens qui sont pas forcément de la région la culture bretonne, les danses ou ce qu'on veut, la musique, enfin, qui avait lieu là-bas à Plougastel. Donc on est parti de Guipry, tout simplement parce qu'il y a une gare à Guipry, c'est le côté sud-est de la région, pour arriver au nord-ouest, à Brest. Donc 360 km, on s'est dit, allez, 3 jours, il faut trouver un week-end de 3 jours, c'est pas évident, on imagine que les participants, il faut compter le voyage aller, le retour. Donc on a décidé de faire un départ le vendredi après-midi, vendredi soir. Un horaire assez libre, en fait, un créneau horaire entre 15h et 19h. Le but, c'était que les participants fassent 80 km le vendredi, en fin de journée, bivouac ou trouvent un lieu pour dormir. Après, on imagine ils pouvaient se faire aller 200 km le samedi maximum, et puis il leur restait 100, 120 km le dimanche pour avoir une arrivée le dimanche midi ou dimanche après-midi. Donc voilà le format, ce qui leur permettait de rentrer en fait le dimanche après-midi, retrouver leur voiture à Rennes en prenant un train. Voilà. Ça s'est tenu. Alors dans le lot, il y en a qui sont arrivés pour le faire d'une traite, sauf que ils ont oublié que c'était pas plat, surtout le centre Bretagne, et ce qui fait que bon, pas de chance, il y a eu de l'orage, c'était un week-end un peu compliqué, mais voilà, on est parti sur ce format. Deuxième édition, on a simplifié certaines parties parce que je me suis aperçu qu'en fait, quand on trace quelque chose, généralement on le trace pour soi ou avec sa vision du parcours. Moi, je viens du VTT, j'aime le technique, j'ai une condition physique correcte. Pour un participant d'un niveau moyen, d'un niveau qui veut découvrir la discipline, c'était trop compliqué, trop tordu. Donc la deuxième édition, on l'a un petit peu allégée, mais on s'est quand même servi de la base qu'on avait tracée. Et puis là, il y a des gens après la deuxième édition qui nous disent « Ouais, mais moi, je viens d'assez loin. La Bretagne, pour moi, c'est la mer. » Et puis là, on la voit pas, la mer, en fait. On traverse la Bretagne par l'intérieur. Alors là, on a dit « Ok, il n'y a pas de problème. C'est l'occasion de changer. » Et l'hiver dernier, j'ai donc retracé un parcours, donc toujours sur le même format, 360 km, enfin, allez, on va dire entre 340 et 380, parce qu'il y a une option, il y a une coupe, on va pouvoir faire une coupe, pour ceux qui sont un peu juste au niveau du délai. Et là, on ira chercher la mer, c'est-à-dire que les deux tiers du parcours vont être côtiers, pour le coup. Et donc ça, on l'a tracé, on l'a validé, le parcours était prêt, et puis pour vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, dans le sens où, pour pas qu'il y ait d'excuses pour ne pas venir, en fait, on avait calé ça le week-end de la Pentecôte, donc 3 jours. Là, on partait sur un format samedi, dimanche, lundi, avec une arrivée possible dimanche. Et pour ceux qui sont un peu, voilà, une arrivée le lundi pour la plupart, je pense. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est rendre la chose aussi très conviviale, parce que pour avoir participé à quelques épreuves de bikepacking, moi, ce que j'en retiens, ce que j'aime, c'est que les participants se retrouvent à la fin, par exemple, puissent échanger sur leur aventure, voilà, et se posent, en fait, continuent à bivouaquer une dernière nuit, pourquoi pas. Se retrouvent autour d'une table, discutent, il y a la famille qui peut se mêler un petit peu, qui sont venus les chercher. Donc pour moi, c'est très important de trouver un lieu d'arrivée qui s'y prête. Et on a trouvé le lieu, enfin pour nous, là, c'est, on a trouvé un lieu idéal. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc on garde tout ça sous le coude, et puis on garde le parcours. Ce qui me rassure, c'est que ça nous laisse encore pas mal de mois, on va dire 8-10 mois pour peaufiner encore. Bah c'est ce qu'on est en train de finir de faire, quoi. Quand on a un petit peu de temps, bah voilà. Moi, je vais rouler, je vais essayer de chercher le petit chemin qui va bien, éviter la route, essayer d'alterner les parties, on va dire un peu grimpantes, et puis remettre du roulant derrière, par exemple. En fait, le but, c'est que tout le monde s'y retrouve. Et j'essaye de m'y appliquer. Mais pour le coup, j'ai hâte de faire partager ça aux participants. Vraiment hâte. Voilà.
C'est gratuit, c'est payant, c'est quoi?
Alors,
C'est très cher.
oui, c'est très cher. Là,
Ouais.
il y a
200 euros pour ramener une casquette et un brassard de déporté.
Alors, il y a ni casquette, brassard, je sais pas, je pense pas. Non, on a prévu autre chose. Ah, tu m'entends, Richard?
Ah mais je t'écoute
Ah,
attentivement
ok.
même.
Excuse-moi, j'ai eu un petit bruit, mais ça va être autre chose. Ouais, alors pour être très franc, nous, on ramène ta fraise, et on a fondé une association qui s'appelle Gravel Cap, où voilà, on organise un ou deux petits événements à côté, et on a forcément un petit peu de frais, enfin d'assurance, etc. Voilà. Donc on prend 30 euros pour la participation, pardon. Sachant que, à l'arrivée, les participants, ils seront un peu loin d'un lieu de restauration, d'un bistrot, etc. Mais on va pas les laisser assoiffés, affamés ou autres. On va leur fournir, dans la limite du raisonnable, à manger et à boire. Le lieu s'y prête, c'est cool, il y a ça en extérieur et tout, bref. Tout ça sera compris dans le prix de l'inscription. Donc, on prend 30 euros pour couvrir nos frais, dont ceux-là. Ils ont aussi un ou deux petits souvenirs. On est en train de voir. On pense à plus un objet basé sur la sécurité, voilà, pour éventuellement rouler la nuit. On est en train d'étudier la chose. On avait déjà fait quelques devis. On a de bonnes idées là-dessus. Et puis surtout, on reprend 10 euros minimum ou plus, ceux qui veulent donner plus, 40, 50. Donne plus. Et ça va en fait à, on va dire, un collectif, c'est même pas une association, qui s'appelle Fort Rose. J'y tiens beaucoup. Rose, c'est une petite fille qui sort d'une leucémie, petite fille de 5 ans. Son papa est un adepte du gravel, voilà, un ancien cycliste, qui a eu beaucoup de soucis par rapport à la maladie de sa fille. Son papa a découvert enfin, ses parents, surtout à Rose, ont découvert le milieu, le monde hospitalier de l'enfant malade, etc. Donc il a envie d'aider par des actions concrètes. On va pas remettre un chèque à la Ligue contre le cancer, ça c'est très bien, on peut le faire, on pourra le faire, mais nous on va aider des jeunes, en fait, souvent des jeunes adultes ou adolescents qui sortent d'une longue maladie pourquoi pas leur acheter un vélo s'ils ont envie de faire du vélo, pourquoi pas leur essayer de leur aider à leur payer un permis de conduire pour qu'ils reprennent des études pour faire des stages. Enfin, on est dans l'action concrète, en fait. Et donc, on prend une partie de l'inscription, c'est très clair, pour reverser de l'argent, enfin pas de l'argent, mais pour financer des actions via For Rose, en fait. Voilà, un collectif rennais qui aide des enfants hospitalisés. Et donc, du coup, ça donne du sens, si tu veux, à notre organisation. Quand on va reconnaître les chemins l'hiver, qui pleut, qui fait 5 degrés, ça arrive parfois en Bretagne malgré tout, eh ben, on sait pourquoi on le fait, en fait. Et ça fait du bien, ça réchauffe. Voilà, pour tout te dire sur le combien ça coûte. 40 euros, 10 euros reversés et 30 euros pour l'organisation. Ça serait très clair.
Eh bien voilà, en toute transparence. Je suis un petit peu déçu quand même pour la casquette et le brassard, surtout le brassard.
On va pouvoir t'arranger ça, bah, s'il y a que ça.
Oh oui, bah, je suis pas, tu sais, je cours pas après me mettre un truc autour du bras, ça. C'est pas une période qui m'a, c'est pas une période vraiment brillante de l'histoire.
C'est aussi, c'est donc, vrai. Et puis, moi, mon placard, casquette, ça va, il commence à être bien fourni. Bon, et même si je les trouve très belles, hein.
Oui, le côté, tu m'entends?
Oui, très bien. Ah oui.
Non, c'est juste mon casque qui merdoie par moment, voilà. C'est que je m'entends plus et du coup, je ne sais plus si tu m'entends. Oui, je me moque gentiment des casquettes et tout parce que que bah comme moi, t'as connu les années 90, oui. L'arrivée des casques et on portait plus de casquettes et devoir revenir ça super à la mode aujourd'hui, ça me j'ai rien contre, je m'en fiche, mais j'ai plus quelque chose contre les brassards et les épreuves qui proposent un brassard pour 200 boules. Ça
oui.
ça me hérisse davantage. Tiens, d'ailleurs, parlons-en. Est-ce que tu comptes devenir une épreuve Jet Set Super VIP?
Du tout.
Ah mince.
Du tout. Non, nous, c'est une bande de potes qui se retrouvent au milieu de la forêt, on allume un feu, on boit un coup et on repart faire du vélo et ça va très bien comme ça. Putain, pas de problème.
Les Bretons, tous les mêmes, hein. Un feu dans la forêt, de la bière et ça repart. Vraiment, vous êtes tous les mêmes. Incantation à une sorcière quelconque, sacrifice d'une poule et hop.
À origine druide peut-être, je sais pas,
ouais.
Quelque chose.
Oui, il y a un truc, c'est certain. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Si, le traçage, parce que
oui.
Moi, je suis en plein tracé d'un truc que je fais dans 2 semaines maintenant à Chartres. Donc, comme toi, je réfléchis au parcours, je vais le faire et après, je recolle les morceaux.
Ouais.
J'en ai fait un petit bout ce matin. J'ai ajouté une fourberie, deux côtes, dont une, la première avec un passage à 20%. Elle est magnifique.
Intéressant.
En plus, on passe à côté d'un cimetière, c'est génial.
Un chemin de croix, quoi.
L'angle de vue est imprenable. Parfait.
Un vrai chemin de croix.
Ouais, bon, ça va, et ça dure 500 mètres. Tu parles d'une affaire. Comment tu procèdes, toi, justement? Quels outils tu utilises?
Ouais.
Bon, alors évidemment, tu roules et puis après, tu récupères ton GPX.
Ouais,
on fait tous la même chose, mais après, pour éventuellement modifier un petit peu ce GPX,
ouais.
Parce qu'on. Là, on parle d'organisation de traces, mais aussi chacun qui prépare ses parcours peut être confronté à ce truc. Mais après, pour recoller des bouts de traces, comment tu procèdes?
Ouais. Alors moi, je suis parti au départ un peu comme tout le monde, hein, un peu d'une feuille blanche. On bricole avec différents sites, on va voir le copain ce qu'il fait, ce qu'il utilise. Et puis là-dedans, on essaye de trouver le truc qui va le mieux. Donc moi, j'ai trouvé un truc vraiment, vraiment sympa que j'utilise, on va dire, depuis le début. Après différents essais, ça s'appelle MyGPS Files. Et MyGPS Files, c'est un site gratuit, hein, vous tapez sur Google. Et il y a un petit blog, etc., où le gars, il explique qu'en fait, il en avait marre d'aller sur des sites assez complexes pour recoller des traces, pour les fusionner, voilà. Donc, il a fait son propre outil.
Mm-hmm.
Bon, forcément, je pense que c'est quelqu'un qui est de la partie parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais au final, il a fait quelque chose de très simple. Enfin, pour moi qui suis pas un as au niveau informatique, la prise en main, on va dire qu'au bout d'une demi-heure, on a quasiment fait le tour pour pouvoir modifier, fusionner des traces, mm-hmm. les enregistrer, les superposer avec différentes vues satellites. Enfin, pour moi, c'est un, voilà, c'est quelque chose de complet. Donc, ce que je fais, déjà, la région, je la connais. Moi, de par mon travail, je suis sur la route depuis 20 ans sur toute la Bretagne. Je sillonne un peu tout ça. Donc, j'ai une bonne vision des choses. Tant que les épreuves restent dans notre région, parce qu'après, ça risque d'être plus compliqué pour moi si je décide d'organiser quelque chose ailleurs un jour. Enfin, bref. Mais je trace sur ce support mes GPS files. Voilà, je dégrossis. En fait, quand je trace, si je pars de Rennes et je veux aller à Vannes, par exemple, ça me donne un certain axe. Sur cet axe, j'essaye d'intégrer des choses que je veux aller visiter, un lac, une chapelle, j'en sais rien. Enfin, bref, un lieu sympa. J'essaye de, voilà, ça me donne un axe et ensuite des curiosités, on va dire. Et ça va me donner, une fois que j'ai tracé tout ça, tout combiné via ce site-là, ma GPS Files, une distance. Soit j'ai du rap, soit je suis trop long. Voilà, en gros, hein, c'est pour faire 360 km, on n'arrive pas pile poil à 360 km, on va peut-être être à 420 ou à 250. Enfin, bref. Et ensuite, le gros du travail commence, c'est-à-dire que cette trace, je vais l'intégrer dans mon GPS, dans mon téléphone, et puis je vais prendre mon vélo. Et puis je vais aller sur le terrain et j'ai remarqué qu'en fait pour allez 50-80 km finis, validés d'une trace, il m'aura fallu une journée, voilà, une journée de reconnaissance, une journée de vélo en démarrant à entre 7 et 8 heures le matin jusqu'à l'hiver à 17-18 heures le soir, j'arrive à boucler 50-80 km. J'arrive rarement à faire plus, valider vraiment. Et là, une fois qu'on est rentré à la maison, bah forcément, on a sur notre GPS l'enregistrement, on a une trace qui part à droite, l'autre à gauche, un demi-tour là-bas, un cul-de-sac. Enfin, on peut pas filer ça aux participants. Donc là, je la réintègre dans ma GPS files. Le soir, souvent, je fais ça quand c'est chaud, quand on a ça encore en tête. Et là, je vais couper mes traces, les rabouter, etc. Je vais regarder à nouveau le nombre de kilomètres que j'ai fait, ce qui me reste en rab, ce que je peux en faire, voilà, ce que je dois diminuer. Et puis au final, on essaye de faire une trace pour tenir la distance, en intégrant les côtés, les curiosités, etc. Mais c'est très long. C'est forcément très long. Bon, en même temps, quand on aime ça.
Oui, c'est assez plaisant en plus.
C'est assez plaisant parce que, franchement, au début, quand on n'a pas les outils, on galère. On passe du temps devant le PC et puis c'est pas forcément le but de la manœuvre, quoi. Mais quand on maîtrise quand même un petit peu les outils, ces outils-là, ça va, quoi. Voilà, on arrive à faire quelque chose de sympa normalement.
Ouais, puis on voit des. Enfin, tu vois, je m'en suis rendu compte, évidemment, on s'en rend compte en roulant, mais après, quand tu reprends la carte, il y a des lieux dits qui sont vraiment hilarants. À côté de la maison, il y en a un qui s'appelle La Folie. Un petit peu plus loin, il y en a un qui s'appelle Le Gland.
Ouais. Non, mais ce qui est très drôle, c'est quand tu arrives à trouver un sens là-dedans, quoi.
C'est dingue, ça, les lieux dits. Il y a quelques semaines, enfin même quelques mois maintenant, je crois que c'était en juin, je suis allé rouler dans ma région natale, donc dans le Berry, à La Châtre. Et je suis allé monter le point culminant de la Creuse qui est juste à côté, donc tout le Sainte-Croix au-dessus de Boussac. Et la route principale entre La Châtre et Boussac, il y a plein de lieux, de panneaux vers des lieux dits, par exemple le Sénégal. Tu dis, putain, mais ça vient d'où ça? Il y en a un aussi qui me fait beaucoup rire qui s'appelle le Puy de la Rousse. Alors celui-là, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé ici.
Ou pas.
Par curiosité.
Ouais, bien sûr.
Quand je vais chez mes parents dans les Alpes de Haute-Provence, j'arrive par Grenoble, Gap, et à la sortie de la Drôme, il y a un lieu dit qui s'appelle les Espagnols. Je trouve ça génial, tu vois, de se dire, mais comment t'arrives à un nom aussi tordu que le Puy de la Rousse, les Espagnols ou La Folie.
Il y a forcément une explication.
Mais oui. Et c'est ça qui est génial.
Ouais, et c'est surprenant, ça peut l'être. Enfin, bon, c'est le côté drôle et il faut. Ça fait partie du trip. Enfin, moi, c'est pareil. Ça me fait souvent marrer ces histoires. Ça peut être rigolo.
Et d'ailleurs, il y en a un autre qui s'appelle chez. Ça, c'est pour ton côté druidique. Il y en a un qui s'appelle chez Merlin.
Ah.
Il y a, ça aussi, ça me fait beaucoup rire. C'est, tu vois, par exemple, à Chartres, il y a beaucoup de villes qui se finissent par, enfin, de villages qui se finissent par ville. Bouglin, oui. Bah, j'allais dire Bouglinval, super l'exemple. Téléville, machinville, trucville.
En Normandie, c'est ça en fait aussi, hein. Vaste ville.
Ouais. Oui, bah oui, parce que énormément, les deux fois où je suis allé faire la Normandie 4, il y en avait plein, ouais.
Ah ouais, ouais.
Et dans ce coin-là de Creuse, tous les lieux-dits s'appelaient chez machin, chez truc, et il y en avait un qui s'appelait chez Merlin. Et ça, ça m'a fait beaucoup rire.
Et ouais, comme quoi. Et un druide a dû passer, s'y perdre ou quelque chose, qui sait.
Sacrifice de poule et hop, c'est parti. Bon, si on parlait de voyage un petit peu, t'es allé où?
Pourquoi pas? Ah, je suis allé où?
Un breton qui a affronté le vaste monde, c'est incroyable.
Ah ouais, mais on en a croisé tout du long, hein. Tu sais, des bretons, c'est mais bizarre, bien, ça voyage bien. Hein.
Je me moque, mais la blague, c'est que quand tu vas n'importe où dans le monde, ouais. Tu croises une échoppe bretonne, et c'est dans quelle ville? C'est à Kyoto. Mm-hmm. Ouais, je crois que c'est à Kyoto, donc au Japon. Je suis tombé sur une crêperie avec drapeau breton et tout, donc
C'est fort, ouais, c'est fort.
Il y a des trucs comme ça, comme les magasins L'Occitane en Provence. Tu peux arriver dans n'importe quel bled, pareil dans le centre de Tokyo, le fameux carrefour de Shibuya. Il y a une Occitane en Provence. C'est complètement absurde.
Ils sont partout.
Les bougres.
Ils sont partout.
Les Provençaux les et les Bretons, mais c'est pas possible.
Eh oui.
Et rajoute les Vendéens. Tiens, vos amis de toujours.
Pas de conflit, s'il te plaît. Non, non. Pour peu que les Normands s'en mêlent. Non, non, on est mal barrés.
De toute façon, vous êtes plus ou moins cousins à force de coucher les uns les autres.
Non, mais on est tous frères, surtout. C'est ce qu'il en ressort, au final. ou sœurs, ce que tu veux.
Bon, pas de problème. Bon, alors, vas-y.
Où est-ce que je suis allé user mes pneus, alors?
Alors, où et pourquoi? Pourquoi, à un moment donné de sa vie, on se dit, tiens, j'ai une compagne, donc, pas une femme, une compagne, plusieurs enfants que j'ai fait moi-même.
Jusqu'à preuve du contraire, ouais.
Pas de conflit, on a dit.
Ah non, je croyais que je t'entendais plus.
Pas de conflit. Pourquoi on arrive à ce choix de vie?
Ouais, alors ça peut être... peut te le faire assez court ou assez long. On va essayer de trouver un petit mixte, en fait. C'est des successions d'événements qui t'amènent vers cette sorte de drôle d'idée, on va dire. Mm-hmm. Succession d'événements, on peut appeler ça des claques que tu prends, quoi. Des bonnes claques, même. Tu vois, souvent, c'est des potes qui partent un peu trop vite. Voilà, des jeunes enfants, des choses qui te touchent vraiment au plus profond de toi. Tu choisis ou pas, d'ailleurs, de devenir papa, et tu te rends compte que t'es pas éternel, qu'il peut se passer des choses, une forme de prise de conscience, on va dire. Et puis c'est aussi des rencontres, tu vois. Moi, j'ai un collègue de travail un jour qui est parti. Lui, son trip, il fait de la voile et il a décidé un jour de prendre une année sabbatique pour traverser l'Atlantique. C'était faire une transat pour lui, c'était son kiff et tout. Et puis moi, un jour dans la voiture, on venait du travail, je lui dis, je partirais bien comme ça, ça nous tente avec ma compagne déjà, on aimait le voyage. Je lui dis, mais maintenant j'ai des enfants, ça c'est compliqué. Mais il me dit, il me regarde dans les yeux, tout en s'étant arrêté avant quand même. Hein. Il me dit, mais de toute façon, les limites, c'est toi qui te les fixes. Ouais, je lui dis, ouais, mais quand même, le travail, l'argent. Il me dit, tu trouveras toujours des excuses. Quoi qu'il arrive, tu vas toujours te trouver des excuses. Et là, ça te reste un peu dans un coin de la tête, tu vois, les semaines passent, les mois passent, et tu te dis, mais en fait, il a raison. C'est comme participer un peu à une épreuve de bikepacking, une fresh divide ou autre. Si tu y vas pas, tu trouveras toujours des excuses. Alors, elles peuvent être plus ou moins valables, hein, les excuses. Ça, on n'est pas, voilà, ça peut être compliqué, mais. Donc, à partir de ce constat, en ayant pris quelques bonnes claques, comme je disais avant, tu te dis, maintenant, on passe aux choses sérieuses parce que on arrête de rigoler. Enfin, de rigoler. Si, on va rigoler, mais on arrête de on passe à l'action, quoi. On passe d'une phase de à regarder, on y va pas, ce serait bien, mais si je perds mon boulot, machin, comment je vais faire? Ben non, on y va, quoi qu'il arrive, on y va. On enclenche, quoi. Et puis après, moi je comparais ça, si tu veux, un petit peu à une fenêtre que tu vois au loin, tu vois, t'es dans une pièce, t'as le jour, t'as de la lumière, il fait beau, t'es dans un truc, dans une chambre, et puis puis le jour où tu pars, le jour où tu mets des sacoches sur le vélo, tu donnes ton premier coup de pédale, et ben tu viens de sauter par la fenêtre, quoi. J'ai jamais fait de saut en parachute, mais t'es dans le vide, tu planes, quoi. T'es parti, en fait. Et c'est une sensation assez exceptionnelle. Voilà, que j'aimerais que beaucoup de gens connaissent. Alors tout à l'heure tu me demandais un petit peu ramène ta fraise, ben c'est un petit échantillon de ça, en fait, tu vois. C'est la façon dont j'ai envie que ça se fasse. C'est goûter un petit peu à cette liberté. Donc voilà comment ça s'est fait, comment c'est parti, l'idée de partir en voyage un an en famille autour du monde. Donc on n'est pas parti comme ça, hein. On a quand même testé, on s'est demandé si le vélo ça allait être le bon moyen de locomotion, si on a essayé avant sur d'autres pays de partir en stop, en sac à dos, je veux dire. Voilà, on a essayé différents trucs et puis il s'avère que le vélo, on y est revenu parce que pour nous c'était la meilleure carburation, en fait, le meilleur fonctionnement pour vivre le truc comme on l'imaginait, et on est convaincu que c'est la meilleure façon pour nous de se déplacer. Voilà l'histoire.
Et vous êtes parti de Bretagne?
Non, on a hésité, mais on avait envie de vraiment d'une rupture par rapport à ce qu'on connaît, assez franche. On avait soif, on était une forme d'impatience, si tu veux, au niveau de la découverte. Donc on a pris l'avion à Paris et on est parti d'un coin qui est pas trop plat, en fait, hein. On est parti du Pérou, on est parti de Lima. Donc en début juillet, ça correspondait à l'hiver là-bas. Donc l'hiver là-bas c'est sec, c'est pour ça que surtout qu'on est parti l'hiver là-bas, ça nous assurait un petit peu niveau météo. Et puis Pérou, voilà, en fait quand on a tracé notre périple, on a essayé de partir dans des pays où on allait être en sécurité, enfin, au moins d'un point de vue géopolitique, on va dire. Ensuite, ce qui a déterminé un petit peu le sens, etc., c'était les saisons. On n'avait pas envie, avec des enfants, de se retrouver à patauger dans la neige au Canada ou autre. Et puis, on a essayé de suivre les saisons. Après, ma compagne était vraiment attirée par l'Asie du Sud-Est. Moi, plus par l'Amérique latine. Donc, on s'est dit entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a un peu d'Australie. Un précédent voyage, on était allé en Turquie, on avait adoré la Turquie, donc on s'est dit aller rentrer par la Turquie. Donc, ça nous a donné un petit peu un sens à tout ça. Et puis, ce qui fait, bah voilà, ça, on a fait l'Amérique latine, 4 mois, donc Pérou, Bolivie, Argentine, Chili. Ensuite, un avion, ça fait une petite escale. Enfin, on a profité un petit peu de l'Australie. On n'a pas pédalé, là. Et on a fait un mois en Nouvelle-Zélande. Et après, on est allé donc en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Cambodge, Laos et Vietnam. On a repris un avion pour Istanbul, Turquie. Et puis, on est rentré de Turquie en passant par la Grèce et l'Italie pour arriver chez nous, en fait, un an plus tard, début juillet, voilà, à Rennes, quoi. Donc, avec 2 enfants qui, quand on est parti, notre fille avait 7 ans et notre fils 10 ans.
Ah oui, ils n'étaient pas si petits que ça, quand même.
Non, ce qui fait qu'ils gardent, ils ont vraiment le voyage en souvenir, ils ont les rencontres, voilà, ils ont pu vivre des trucs qui forcément, enfin, ils ont eu, voilà, ils se souviendront de pas mal de choses, on va dire.
Ouais.
Et puis, au niveau autonomie, c'était plus simple pour nous aussi.
C'est clair, quand même.
Ouais. Ouais, faut le dire.
Je reviens sur un petit détail de ce qui a motivé ton départ. Tu parles de liberté. Ouais. Ça, on va pas non plus partir dans un débat philosophique, mais non. On est libre quand même. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Comment tu pourrais matérialiser le manque de liberté dans nos vies quotidiennes? C'est le travail, le train-train? C'est quoi ce manque de liberté? Parce que finalement, on n'est pas en dictature, donc.
Non, on n'est pas en dictature. Alors, on à ce niveau-là, enfin, sans rentrer trop, sans aller trop loin, on a une liberté de penser, on a une relative liberté de parole ici. Par contre, on a des obligations, forcément, on a des règles à respecter, on a des codes et voilà. Et ces codes et tout, bon, l'idée de les casser, moi, ça m'intéressait, rouler à 8 dans une Mercedes au Maroc, à 130 à l'heure, dans un taxi, voilà. Moi, je l'ai vécu avec mes enfants en bas âge, même si au début, ça fait flipper en tant que parent, tu te dis, ça fait du bien quand même de lâcher un peu prise et que ça, et au final, bah, il arrivera ce qu'il arrivera et ça va bien se passer parce que ça se passe comme ça là-bas. Mmh. Et c'est plus un petit peu cette idée de liberté, si tu veux, de se dire, bah, voilà, aujourd'hui, j'aimerais aller par là-bas. Mais est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Est-ce qu'on va faire 40 km aujourd'hui? Est-ce qu'on va en faire 80? Est-ce que il y a plus de contraintes vraiment? Il y a plus de limites. La seule contrainte qu'on ait, c'est que nos enfants aient à manger, n'aient pas froid. Pourquoi pas vivre un beau moment? Enfin voilà, c'est. Et ça, par rapport à nos vies quotidiennes actuelles, bah c'est quand même une rupture quelque part, enfin, et c'est ce qu'on allait chercher aussi, goûter cette forme de liberté, même si je le conçois complètement, on est loin d'être un plein en termes de liberté ici chez nous en France, quoi. C'est clair.
Attends, j'ai pas bien compris ta dernière phrase. On
n'est pas à plaindre, si tu veux. Ouais. Loin de là, on a cette chance. Et
oui.
Bah ouais, donc il faut sans cesse le rappeler.
Oui, quand même, on n'est pas à plaindre, même pas non. du tout, malgré ce que certains pensent. On n'est pas, c'est pas la dictature, et j'encourage tous ceux qui imaginent qu'on est en dictature à vraiment aller se promener dans une dictature, et ils verront ce que c'est.
Exact.
C'est pas la fête du slip tous les jours.
Non, pas vraiment. On n'a plus le droit après, on n'a plus le droit de se plaindre.
Exactement. Alors, les enfants avaient 7 et 10 ans.
Ouais.
Comment se passe la déscolarisation?
Alors, on a cette chance en France, pour l'instant et pourvu que ça dure, de pouvoir déscolariser nos enfants. Par contre, on a une obligation, c'est celle de leur apporter un enseignement. Et on a... Donc ça, c'est une obligation. Et on doit pouvoir le prouver. C'est-à-dire que demain, tu décides de déscolariser, on ne pourra pas t'en empêcher, il faut prévenir l'académie, etc.
Ouais.
Par contre, tu dois être en mesure de prouver que tu leur apportes un enseignement. Alors, moi, je me disais, on va être au milieu du salaire du uni, avant de voir un inspecteur avec sa petite pochette débarquer pour voir si on a bien fait les devoirs avec les enfants. Si tu veux, pendant un an, je me suis dit, on est à l'abri de tout ça. Mais malgré tout, le but, on a fait le choix aussi de leur apporter un enseignement. On aurait pu faire le choix de les faire redoubler leur classe. Et on s'est dit, pour pas casser ce rythme scolaire et cet apprentissage, on va leur apporter voilà ce qu'on peut en termes de matière, ce qu'ils étudient habituellement à l'école. Donc là, merci les enseignants, parce que leur maîtresse de l'époque nous ont bien briefé, ma sœur est institutrice, ma belle-sœur aussi, donc voilà, elles nous ont bien aidés. Elles nous ont dit de garder les matières principales, maths, français, bon, le reste, la géographie, l'anglais et tout, ils allaient l'apprendre sur la route. Et c'est ce qu'on a fait pour gagner en poids, hein, esprit bikepacking un petit peu, on a déchiré toutes les pages de sciences, d'anglais, de leur cahier, c'est comme des gros devoirs de vacances, hein. On a acheté ça dans une librairie, on s'est renseigné un petit peu avant, puis on a gardé les matières principales. Et puis, alors, l'école, c'est vraiment un côté pas simple à gérer pendant le voyage, parce que, en fait, il faut s'y mettre. Alors, au début, on est plein de bons principes, on se dit, allez, tous les jours, on va faire une heure ou deux, machin, puis en fait, ça marche pas. Et on s'en doutait. Enfin, on en avait discuté avec d'autres voyageurs avant. Voilà. Donc, on faisait les devoirs, bah, quand on pouvait. Une journée de repos, si on se posait 2 ou 3 jours, eh bien là, on sortait les cahiers, puis on se faisait une demi-journée d'exercices de maths, etc. Donc, bon an, mal an, ça avançait gentiment, ce qui fait qu'à Noël, mois de décembre, en ayant commencé les devoirs en juillet, ils avaient fini leur cahier, donc on a des et puis surtout ça leur manquait de pas pouvoir faire des sciences, pas pouvoir faire de l'anglais. Donc on s'est fait fournir d'autres cahiers, c'était au Laos ou au Cambodge pour Noël, où là ils ont eu de nouveaux cahiers, nouvelles matières, et pour eux c'était génial parce qu'ils redécouvraient des matières qu'ils n'avaient plus. Mais c'était, faut le dire, c'est pas une partie de plaisir faire les devoirs à ses enfants, déjà quand c'est pas ton métier. Tu restes leur parent, donc il y a toujours des tensions, il y a toujours. Et puis je vois pour notre fils qui était plus intéressé par pédaler que par faire les devoirs, on va dire, même au bout de plusieurs mois de voyage, ça devenait très très compliqué. C'est-à-dire que voilà, ils n'en voulaient plus vraiment. Et puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui n'allait pas, c'était le cadre. C'était le cadre. Ma sœur, qui est institutrice, me l'a expliqué. Quand on s'arrêtait à faire les devoirs, bah, c'était dans un café au bord de la route. C'était, ça pouvait être, voilà, parce qu'il faisait trop chaud au Cambodge, donc dans un temple, hop, on faisait les devoirs. Et en fait, il n'était pas du tout dans un cadre scolaire. C'est-à-dire qu'actuellement, dans une classe, la maîtresse leur dit, bah, sortez vos cahiers, faites tel exercice. Tout le monde prend son cahier, fait l'exercice normalement. Et voilà. Lui, il était tout seul avec ses parents, donc il n'y arrivait plus. Donc une fois qu'on a compris ça, bah, on lui a un petit peu lâché les baskets. On faisait ce qu'on pouvait, comme on pouvait. Et puis quand il est arrivé en 6e à la rentrée, ça s'est très bien passé au final. Il était fier de prouver aussi, nous prouver, de se prouver qu'il n'avait pas perdu grand-chose et que tout est rentré dans l'ordre assez vite. Au bout de 2 ou 3 mois, c'était les lacunes qu'il avait pu avoir de certaines matières étaient gommées. Et puis surtout, il avait appris tellement d'autres choses que le reste, on va dire, c'est accessoire presque.
Ouais, puis en plus, Laos, Cambodge, Vietnam, il est certainement venu avec la formule du napalm. C'est toujours utile à l'école.
Je sais pas.
Techniquement, vous mettiez les enfants étaient logés dans quoi ? Ils avaient pas leur vélo, je suppose, donc vous les avez transportés dans une petite chariote, c'est ça ?
Non. Ma fille de 7 ans, 8 ans était sur un tandem avec moi, un tandem Pinot, un tandem AS, c'est une marque de vélo couché, qui fabrique des vélos couchés, c'est allemand. Donc elle était devant moi en position assise comme dans un fauteuil de camping, et elle pouvait pédaler, elle pouvait participer au pédalage en fait, hein. Et quand j'arrêtais de pédaler, enfin quand je pédalais, elle pouvait arrêter de pédaler. Donc elle profitait du spectacle en permanence, puisqu'elle se faisait porter comme ça dans les montagnes, dans les Andes. Et mon fils, lui, il avait son propre vélo, il a pédalé tout du long, avec 2 petites sacoches derrière. Et ma compagne, son vélo. Donc voilà, 3 vélos pour 4 personnes, en gros. Et les vélos, bon, on les mettait dans l'avion. Donc tout ce qui était, on a pris 4 gros transferts, 4 gros vols, hein, pendant notre périple. Et c'était, je vais pas dire 4 grosses galères, mais 4 gros coups de stress. Enfin, c'est pas la partie la plus fun du tout du voyage. Ça, on le savait, mais bon, c'est pas ce qu'on en retient, on va dire.
Ouais. En parlant de qu'est-ce qu'on en retient, les enfants, ils en retirent quoi ? Parce qu'on, tu l'as dit tout à l'heure, français, maths, bon, bah, c'était la base, mais le reste, tout ce qui est géographie, anglais, histoire, ils retirent quoi ? Alors, de tout ça ?
C'est assez intéressant parce que les enfants, ils vivent l'instant présent. Ils vivent dans la souciance, et c'est très bien. Donc c'est génial parce que en fait ce que tu peux avoir comme souci, comme inquiétude, tu vas te les prendre toi en tant qu'adulte. Bah si t'en as trop, ils vont le ressentir, hein, ce sont des vraies éponges, mais ce qui fait qu'ils vont profiter du voyage normalement, ils vont pas s'inquiéter de savoir ce qu'on va manger ni rien, c'est nous qui leur fournissons tout ça. Où on va dormir, si on leur dit que là au bord de la route, on va bien dormir, on est bien, ça va bien se passer, ils vont bien dormir. Et même quand on est rentré, ils étaient dans ils étaient dans l'instant présent, c'est-à-dire que deux jours après, ils jouaient avec leurs copains dans la rue, et comme s'ils avaient jamais rien fait comme voyage. Mais là, avec un petit peu de temps maintenant, avec 3 ans de recul, je vois mon fils, il est très curieux, je trouve qu'il a toujours besoin de regarder les informations, voir ce qui se passe dans le monde, en fait. Il a un esprit assez ouvert là-dessus. Voilà, ça a aiguisé un peu sa curiosité, je trouve. Sinon, le côté humain aussi l'a beaucoup marqué, en fait. Les rencontres qu'on a pu faire, les gens qu'on a rencontrés, il est assez sensible à ce niveau-là, en fait. Les rencontres, il aime bien le monde adulte, on va dire. Il aime bien essayer de s'immiscer dans des conversations. Enfin, ouais, il a grandi avec ça et voilà. Sinon, au niveau des langues, forcément, qu'ils ont progressé. Moi, on va dire que je suis parti. Franchement, j'ai un niveau scolaire anglais non pratiqué depuis 20 ans ou très peu. J'étais obligé de m'y mettre. Hein, ça m'a fait du bien. Et l'espagnol aussi. Et nos enfants, en fait, ils nous entendaient parler anglais en Asie ou autre. Et puis souvent, voilà, on leur retraduisait en français et tout ça. Puis au bout d'un moment, ils disaient « Mais non, mais vous inquiétez pas, on comprend. Hein. On a compris ce qu'il a dit au bord de la route, qu'il fallait prendre à droite, à gauche, derrière le rond-point. Et... » Ouais, on a compris, vous inquiétez pas. Et bien, en fait, ils n'osaient pas parler. Puis quand on rencontrait, quand ils commençaient à se faire des amis étrangers, voilà, en fait, on s'apercevait qu'ils parlaient anglais avec eux, avec leurs copains. Ils n'osaient pas le faire devant nous, il y avait une forme de gêne. Mais en fait, ils y arrivaient très bien. Ils arrivaient très bien à se faire comprendre, même en espagnol, même en Amérique latine, c'était assez drôle. Après à l'école, quand en sixième, l'anglais, voilà, les profs d'anglais, au début c'était assez fun parce qu'il comprenait, il était, on va dire, voilà, il y avait de l'avance par rapport à ça, mais tout ce qui était grammaire, écrit et tout, là ça marchait plus, quoi. Mais ce qui est acquis est acquis, c'est le principal.
Oui, mais n'empêche qu'il parlait, il arrivait à se faire comprendre et à se débrouiller, ce qui finalement reste l'essentiel.
Exactement. Surtout quand on veut voyager, ça reste l'essentiel, forcément.
Exactement. Plutôt que d'avoir une prononciation impeccable, il vaut mieux être un petit peu débrouillard.
Ouais, c'est ça. Réussir à se faire comprendre. Et pour en revenir à l'aspect, la pratique de la langue, tu vois, c'est ce qui m'a le plus frustré au final. Parce que à contrario, ce qui m'a le plus marqué, c'est les rencontres, c'est le côté humain, c'est ce qu'on a vécu à ce niveau-là, vraiment. Et je sais même pas comment je pourrais rendre un quart de la moitié de ce qu'on a pu nous apporter et nous donner. Mais ce qui m'a manqué, c'est quand tu vas chez des gens, quand tu es hébergé, parce que ça arrivait très très fréquemment, c'est qu'en fait, comme on était limité au niveau vocabulaire et tout, on n'arrivait pas à aller au bout de échanger des sentiments, échanger comment ils vivaient, etc. Tu vois, je suis resté vachement frustré. On est resté assez frustré par rapport à ça. Il nous manquait aussi bien en espagnol qu'en anglais, ce côté échange en fait. Sincère et tout. Alors on arrive à se faire comprendre, mais pour aller plus loin, à part demander le beurre, donne-moi le pain, où est-ce qu'on peut dormir, etc. Bah voilà, tu vois, c'est un peu gênant parfois. Mmh. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on a vécu de très belles choses. Alors c'est un bon conseil, hein, c'est 6 mois, 1 an, voire plus avant, potasser la langue, quoi, les applications, les bouquins en anglais, en espagnol, suivant les pays où on va, voilà, creuser un peu le truc. Ça peut aider, ouais, ça peut être sympa.
Ouais, moi j'écoute Ricky Martin maintenant, ça m'aide énormément.
Pourquoi pas?
Et par rapport, quand t'es rentré, est-ce qu'il y a déjà toi et ta compagne, quand vous avez remis les pieds à Rennes, quel a été votre sentiment? Est-ce que c'était on est quand même bien chez soi ou alors. Oh putain.
Alors,
c'est quelque chose quelque part entre les deux.
Alors, niveau confort, on se dit on est bien chez soi. Tu vois, au niveau confort, vraiment, tu ouvres le robinet, t'as de l'eau. T'es pas obligé de la filtrer. T'as un frigo. Vraiment dormir dans un vrai lit. Avoir un four, c'est bête un four, hein. Mais tu vois, quand on cuisine, avoir un four, c'est quand même royal. Et quand tu l'as pas eu pendant un an, ça fait du bien d'en retrouver. Hein. Ouais. C'est des choses un peu matérielles, mais franchement, on avait besoin de revoir la famille, de revoir les amis, c'est génial, de revoir nos enfants, revivre, de retrouver leurs copains, de retrouver leurs papis, etc. Mmh. Ça, c'est tout le bonheur du monde, quoi. Tu vois, ça nous a fait, ça nous a donné un sens à notre retour. Mais franchement, avec des si, hein, si on était qu'en couple, tous les deux, etc., on serait encore sur la route, on serait reparti, je pense. On aurait peut-être modifié notre façon de voyager dans le sens où, à un moment, il aurait fallu qu'on travaille, certainement. Je pense qu'on serait rentré de temps en temps, pour voir nos familles, nos amis, mais on serait reparti. D'un côté, on était super content de retrouver du confort, mais d'un autre, on avait l'impression qu'on avait encore plein de choses à vivre dans ce sens-là, et on en a encore plein à vivre. Alors, le fait de voir nos enfants dans leur milieu, ça nous rassure, et puis on retrouve un sens à tout ça. Et puis on se dit que plus tard, certainement qu'on repartira, quoi. Comment, où, quand, on sait pas. Mais c'est obligé. En attendant, faire ramène ta fraise et puis on s'évade aussi, c'est bien, entre autres.
Il s'est écoulé combien de temps avant que tu remanges une galette saucisse?
Tu sais que
15 minutes.
Après une épreuve VTT, après tout ce que tu veux, mon truc c'était de manger une galette saucisse. Je passais auprès des stands. Tu sais, t'as toujours une buvette, un truc sur les courses, ça sent la saucisse grillée. Je me dis, allez, à la fin de la course, je m'envoie une galette saucisse. Eh ben, j'en ai jamais remangé parce que je mange plus de viande depuis mon voyage. Et même la galette saucisse, je peux plus. Je peux plus. Alors, c'est comme ça, mais c'est pas grave. On se rattrape sur autre chose. Bon, ça, c'est juste, c'est très perso, hein, mais voilà. Mais ça m'est tombé dessus pendant le voyage, si tu veux, on va dire.
Donc, tu t'es fait débretonifier, en fait.
À ce niveau-là, ouais. Ouais. Mais bon, il y a encore le cidre, il y a encore autre chose, on y arrive.
Oh, ta sonnerie de téléphone, c'est encore un truc de Alan Stivell, je suppose.
Même pas.
Ah, la déception.
Ah ouais, c'est Led Zepp, tu vois. C'est bien aussi Led Zepp.
Qui ça?
Led Zeppelin.
Ah, je connais pas.
Ma sonnerie de téléphone.
Je rigole. Non,
je me doute.
Quand même.
Tu m'aurais surpris, ouais. Voilà.
Alors d'ailleurs, si tu veux, on va faire une petite parenthèse sur Led Zeppelin. Si ça t'intéresse, je te l'enverrai par WeTransfer et comme à tous d'ailleurs.
Dis-moi. Il suffit
d'envoyer un petit message. J'ai en audiobook une vieille série de podcasts de France Culture qui retrace toute l'histoire de Led Zeppelin en 10 épisodes.
Et
c'est hyper intéressant. Donc si ça t'intéresse, pour remonter aux sources, c'est truffé d'erreurs, hein, quand même.
C'est vrai.
Ouais. Notamment sur tout ce qui est batterie, c'est quand même relativement truffé d'erreurs. Le mec, c'est a priori documenté, mais il sort quand même pas mal de conneries.
Ouais, c'est documenté de loin, quoi.
Je sais pas si c'est documenté de loin parce qu'il a vécu vraiment les années Led Zepp en achetant lui-même le premier album à 16 ans. Mais si je prends l'exemple de la batterie, il n'est pas allé suffisamment loin dans l'analyse du style et dans les influences et vraiment les influences et les origines du style, alors qu'il l'a très bien fait pour la guitare et pour le chant. Donc,
ça doit être enrichissant quand même.
Oui, c'est sympa. Et tu sais quoi, je l'écoute à vélo. Quand j'ai fait la Lozère il y a un mois et demi, j'avais ça. Bon, après, je suis passé sur Kaamelott, évidemment, j'ai en audiobook aussi. Et ça, plutôt que d'écouter de la musique qui finit par un peu casser les oreilles au bout d'un moment, je m'écoute des audiobooks et ça passe vraiment comme une galette saucisse, pour ceux qui aiment ça.
Je suis preneur de l'audiobook, moins de la galette saucisse, mais je suis preneur, pourquoi pas.
Ouais, l'audiobook, c'est merveilleux. Bon, alors, en parlant de galette saucisse, on va faire une transition gourmande vers comment ça s'appelle déjà? J'allais dire l'aligo, mais non, c'est plus au sud, vers la truffade. La grande traversée du Massif central, donc.
Oui, allons-y. Alors, grande traversée du Massif central, j'y suis allé. Ma compagne en a fait une bonne partie au printemps 2018, je crois, avec un...
Je te coupe. On a oublié de parler d'un truc sur le voyage. Quand on s'est parlé la première fois, tu m'as dit. Alors il y a deux trucs. Les enfants, tu m'avais dit, faut pas s'inquiéter pour les enfants. Ils sont, tu l'as dit tout à l'heure, ce sont de vraies éponges et le socle de leur existence, c'est les parents. Donc si on est là, tout va bien et on est le centre de leur univers. Et également, il vaut mieux partir avec un couple solide. Tu peux m'en reparler de ça ?
Ouais, complètement. Complètement. Ouais.
Parce que c'est là, tu m'as raconté ça, on a l'impression que vous avez vécu un rêve pendant un an, qu'il y avait des angelots autour de vous et que deux bisounours poussaient ton vélo dans les côtes.
Ouais, pendant le dos tout du long. Hein,
c'est et bien exactement, que les éléments étaient avec toi, un petit peu comme dans Vaiana et voilà, c'était les flots se poussaient sur ton passage. Bref.
Ouais. C'est vrai qu'on a évoqué ça ensemble et puis c'est des choses parce que quand on fait un trip comme ça, il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui ont ça en tête et qui prennent contact on leur en parle parce que même si en termes de couple, chacun son fonctionnement, etc., on n'est pas forcément des exemples, mais il faut avouer que déjà, même au niveau de la phase préparation, faut être à peu près en accord les pays qu'on va faire, le matériel qu'on va emmener, tout ça, il faut déjà tester avant, on est parti, on a fait quelques voyages avant pour voir plus court, mais pour voir si tout collait à peu près à ce niveau-là. Et puis, quand on part à vélo, qu'on se retrouve à dormir à moins 10 ou moins 15 degrés à 4000 mètres, que c'est gelé, qu'on a roulé, on a passé plusieurs jours parfois à monter sur une côte. Il y a une côte, on a mis 3 jours à la monter, tu vois. Donc, il fait chaud, il y a de la fatigue, il y a des décisions à prendre sur... Il y a plein de choses qui se passent. Il y a la nourriture qui est plus la même. Il y a la langue qui est pas là. Il y a aussi le fait que les enfants, on dort avec eux. Hein. Ils sont à côté de nous. On n'a pas de papy, mamie, tonton, de voisin pour les garder 2 heures pour aller manger la pizza, aller au ciné. Ça n'existe pas. On va être en commune, en vase clos pendant un an. Donc les nerfs. Tout est un peu exacerbé, ça peut vite partir en vrille. Donc il y a des moments compliqués à gérer, c'est vrai, faut le dire. Il faut en être conscient avant, et puis quand ça arrive, il faut réussir à dialoguer. C'est pas toujours facile, ça crée des tensions. Et c'est un mode de fonctionnement tellement différent. Là, je vois quand une famille, on va dire assez classique. Travail de la journée, le soir on se raconte ce qu'on a fait à table, ce qui s'est passé, les collègues de travail. Là on n'a plus de collègues de travail pendant le voyage, on est toujours tous les quatre. Le week-end on fait des choses en famille et tout. Là on est H24 ensemble, donc on fait tout ce qu'on a à se raconter. Au bout de 15 jours, on s'est raconté limite. Voilà. Donc il faut gérer tout ça, il faut être conscient que c'est pas forcément. Faut être prêt, quoi. Faut être prêt. Et puis, quand ça, il y a des hauts, il y a des bas. Et au final, quand ça passe, et la plupart des cas, heureusement, ça passe. ça renforce le couple quelque part, parce qu'on a vécu des choses tellement fortes ensemble. Il a fallu se soutenir l'un et l'autre. Il y en a qui ont été malades pendant le voyage. Il fallait que l'autre gère les enfants. Notre hantise, en fait, quelque part, c'était d'être malade en même temps. C'était de se retrouver ou de tomber ou d'être à l'hosto en même temps et qu'il n'y ait plus personne entre guillemets pour s'occuper des enfants, voilà. Donc on a été malade, rien de trop méchant, mais un petit peu hospitalisé quand même, hein. Truc l'histoire de bide, hein.
Classique.
Voilà. ouais et mais il y en avait toujours un pour récupérer, pour faire les devoirs, pour c'était des moments où on mettait tout au point au niveau des devoirs et tout, puis ça repartait tranquillos après, hein. Mais au niveau du couple, il faut être prêt, quoi, on va dire.
Toute façon, quand on est à avoir 2 enfants et avec la même personne et à envisager un voyage au long cours, c'est qu'il y a déjà une belle base.
Oui, et puis sur la même façon on pratique le vélo tous les deux. Ouais. Déjà, normalement, t'as bien dégrossi la chose, on va dire comme ça.
Bien. Après avoir dégrossi la chose, on va revenir sur la grande traversée du Massif Central.
Mmh. Alors, bon, ça s'est déroulé fin juin de cette année-là. Moi, toujours ma compagne qui roule aussi un petit peu. On a fait une bonne partie. Elle a dû faire 400 km de cette GTMC printemps 2018 et elle a trouvé ça génial. Partie toute seule comme une grande. Son premier gros trip seul à vélo. Et donc elle est partie sur un Genomis Vagabond avec des pneus 38 montés la veille dans le garage. On a dû finir à 11h de monter le vélo et puis elle est partie avec un braquet pas du tout adapté, enfin bref, mais malgré tout ça lui a plu et elle m'a dit un jour il faut que tu le fasses parce que c'est trop beau les paysages et tout. Ouais, je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc moi je roule sur un surlit là rigide, des bons pneus, des pneus en 230. Je lui dis, ça va le faire. Elle a réussi à faire 400 km. Elle a poussé pas mal, mais elle m'a dit que c'était chouette. Donc, j'y suis allé un petit peu la fleur au fusil en me disant, bah, de toute façon, là, j'ai 5 jours devant moi ou je sais plus. Ouais, ça va être 5 jours de roulage. Je me dis, ça va le faire. Et puis, je me suis aperçu que c'était pas si simple que ça, quoi. C'était un parcours qui était sur certaines parties assez costaud physiquement. Mais c'est vrai que les paysages sont au rendez-vous.
Et oui.
C'est vrai que toute cette phase un peu de poussage, un peu longue dans les cailloux, bah, il y a la récompense là-haut, donc c'est forcément chouette, quoi. C'est forcément chouette.
Tu es parti d'où?
Alors, je suis parti de un petit peu au-dessus de Clermont-Ferrand. Ça s'appelle Lachant, je crois. J'ai pas fait la boucle parce que je manquais de temps. Je voulais assurer le coup. J'avais un train. Je suis parti le lundi après-midi. Je suis parti un lundi après-midi de Lachant, donc j'ai pas fait la boucle qui monte à Volvic et qui revient juste sous le Mont d'Or. Je suis parti après le Mont d'Or et je suis parti lundi après-midi et je suis allé jusqu'au bout, en fait, jusqu'au Cap d'Agde. Donc je devais avoir autour de 800 km, quelque chose comme ça. J'ai plus trop ça en tête. Donc on va dire que j'ai loupé le début, ayant fait la French Divide en 2018, je crois. Ouais, 2018. On avait fait une partie du Morvan. Voilà. Donc, cette grande traversée du Morvan, je savais à quoi ça ressemblait, puis je manquais de temps. Donc, le but, c'était vraiment de faire une nouvelle trace en partant de Clermont-Ferrand. C'est pour ça que je suis parti de là. Entre mon emploi du temps et ce que je connaissais un petit peu en amont de Clermont, bah, je me suis dit, là, ça va le faire, quoi. Ça va le faire.
Donc Clermont-Ferrand, Volvic, tout ça, et après une traversée du Cantal, je suppose, pour le Cantal, Lozère,
ouais.
Aveyron, puis ouais. Le Gard, c'est ça?
Et après l'Hérault.
Ouais, l'Hérault, oui, plutôt, voilà.
Ouais l'Hérault.
C'est marrant, l'Hérault. Ça s'appelle la grande traversée du Massif central, parce que...
Ouais, très vite, très vite, c'est pas si vite que ça, mais on le quitte. Pour la Lozère et pour l'Aveyron et puis l'Hérault, donc là on se retrouve complètement dans le sud, donc c'est intéressant parce qu'on voit un changement de paysage, si tu veux. Ça devient de plus en plus minéral, ensuite ça devient à la fin méditerranéen au niveau de la végétation, donc même du climat, hein, on gagne forcément pas mal de degrés. Et bah, en vélo, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a le temps de ressentir tout ça, donc c'est super intéressant.
Et en plus, quand il y a des poussages, tu ressens bien le changement de terrain en plus. Non, mais c'est pas une blague, hein, mais vraiment, quand ça change, tu vois graduellement odeurs. Les odeurs aussi, tu vois le terrain qui change, terre.
Ouais. Ouais.
Tu vois éventuellement s'il y a plus de gros cailloux, des pins, de l'argile, des trucs comme ça. C'est comme un long dégradé qui change. C'est super intéressant.
Ah oui, complètement. Et c'est l'avantage du vélo d'ailleurs. Mais j'étais surpris par les poussages. Tu vois, moi je viens du VTT, on va dire j'ai une base technique intéressante. J'adore ce côté technique. J'ai été en difficulté plus d'une fois sur mon vélo, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des marches, même parfois en descente, où t'essayes même pas, quoi. Ou tu peux essayer, mais bon. En montée, des poussages assez longs, quand même. Et puis là, il faisait chaud, donc il fallait être vigilant par rapport à la déshydratation. Des endroits aussi au niveau ravitaillement, vaut mieux pas trop se faire avoir, on va dire. Tu peux être niveau de l'eau, ça va, t'en trouves partout, mais niveau du solide, il faut anticiper un peu le truc, quoi. Mais c'est super beau. Franchement, c'est vraiment à vivre, quoi. Mais il faut être préparé. C'est comme tout, si on veut bien le vivre, il faut être préparé, puis il faut se dire que ça reste du VTT. Il faut y aller avec un VTT, et puis faut blinder au niveau des pneus, parce que c'est caillou, plus on descend, on va dire, plus c'est corsé à ce niveau-là, plus ça coupe, plus ça déchire. Donc faut pas lésiner quoi là-dessus. Une fourche minimum, du pneu blindé et puis pas trop chargé parce qu'il y a pas mal de D+, donc vigilant par rapport au poids. Puis le reste c'est vraiment du bonheur parce qu'on a un très beau pays, très belle région aussi là-bas.
Ouais, c'est clair.
On a cette chance.
Ton surly, est-ce que c'était vraiment le vélo le plus adapté pour faire ça? Tu m'as dit qu'il est rigide. Rigide ou semi-rigide?
Rigide, clairement, c'est pas adapté.
Ouais.
C'est un vélo que j'ai monté pour faire la baroudeuse l'an passé. Je voulais quelque chose de fiable. Je voulais quelque chose, je voulais pas être embêté. J'ai fait monter des bonnes roues solides. Un cadre, indestructible. C'est pas ce qu'il y a de plus léger, mais je sais que je vais pas être embêté à ce niveau-là. Par contre, même sur la baroudeuse, mes épaules s'en souviennent encore presque. Ouais, marteau piqueur pendant 10 ou 12 heures par jour. Et entre les deux, le vélo, il est resté dans le garage, en gros. J'ai pas monté de fourche. Donc, j'ai eu le droit. Je suis parti avec, tout simplement. Puis, je me dis, je verrai bien. Et c'est vrai que on peut le faire, hein, tu vois, on y arrive. Mais le truc, c'est qu'on s'en prend, c'est pas le même plaisir, on récupère pas forcément très bien en descente, quoi. Donc, on subit plus, on peut pas autant jouer avec le terrain, on peut pas. Bon, c'est des choix. Après, y a pas vraiment de mauvais vélo, hein, tu vois. On fait avec et puis voilà.
Ouais, donc c'est un vélo fiable, indestructible, voilà. Simplement parce que t'as passé l'essentiel de ton temps à marcher à côté.
Non, pas l'essentiel. Non, franchement, non. Non, mais ce qui est intéressant sur ce surly, c'est que d'une part, c'est costaud, voilà. Puis d'un autre côté, tu fixes ce que tu veux où tu veux, quoi. T'as des œillets partout. Suivant ce que tu veux faire comme trip, si tu pars une journée, une semaine, tu peux adapter porte-bagages, sacoche de bikepacking. C'est modulable. Souhait quoi, tu vois, samedi je suis allé faire une rando VTT pure là auprès de chez nous, montée, descente, un peu technique, je suis allé avec. Puis d'un autre côté, tu veux faire une French Divide, tu vas avoir un vélo qui peut le faire aussi, quoi. Donc c'est un peu un vélo couteau suisse, quoi. C'est pas super bon partout, enfin c'est, mais tu fais tout avec. Voilà, c'est un peu l'idée, ce vélo.
Et si d'un claquement de doigts, tu pouvais avoir le vélo parfait? Vraiment pour cette GTMC ou pour la baroudeuse ou la French Divide, parce que finalement ce sont des parcours qui se ressemblent énormément dans le secouage de noyaux ou autre. Tu choisirais quoi?
Je vais pas te donner de marque ou de modèle parce que dans l'idée, si tu veux, vraiment un vélo léger parce que le poids, il n'y a rien à faire, hein, c'est l'ennemi dans les bosses. Ce que tu vas dans les bosses et même dans les descentes, parce que t'as un vélo qui est assez light, tu vas pouvoir le placer, tu vas pouvoir limite tenter un bunny up si t'es pas trop chargé, si tu te fais surprendre par une petite cassure dans une descente. Donc voilà, vélo léger, plutôt VTT, French Divide, baroudeuse, GTMC, avec une fourche, ça c'est sûr et certain, bloquable.
Ouais.
Pas forcément guidon, hein, mais on s'en fout à la rigueur, moi, parce que tu peux avoir des gaines. Si tu peux la bloquer juste sur la fourche, c'est suffisant. En pneu, du 230, c'est bien. Depuis un moment, je roule avec du 230 et je trouve que ça passe quand même assez bien partout. C'est ni super gros, ni trop fin. C'est un bon compromis au niveau adhérence. Donc voilà, léger, semi-rigide, fourche, soit titane. C'est titane, j'ai jamais roulé sur des vélos de titane, mais pourquoi pas un jour. Moi j'ai un guidon assez large, depuis un moment je roule avec du 760, là ça m'écarte bien les épaules pour respirer, pour le contrôle en descente, je trouve ça bien. Donc, et puis Spear Grip, tu vois, je mets des Spear Grip depuis un moment là.
C'est quoi?
C'est des petites poignées que tu mets à l'intérieur de tes grips. Ça permet de varier ses positions, c'est plus naturel en fait de mettre ses mains comme ça quand ça monte. Faut quelque chose de simple, faut rester simple dans le vélo pour moi au niveau frein, etc. Faut légèreté, simplicité. égale fiabilité en gros, normalement à peu près.
Ouais, logiquement, ouais.
Ouais. Faut pas partir dans des délires trop compliqués parce que au bout d'une semaine, 10 jours, on peut, ouais, même avant, des fois, on peut être embêté, quoi.
Bah, de toute façon, de ce que je vois des conversations et de ma propre expérience également, on se complique énormément la vie lorsque l'on débute et puis avec un petit peu de pratique, un petit peu d'expérience, on finit par alléger à tout niveau et on se pose moins la question du vélo, des pneus, des machins. Alors évidemment, sur certains parcours, comme tu viens de le mentionner, le choix des pneumatiques est capital. Mais c'est pas non plus, c'est pas forcément ce qui va faire une différence colossale. Et bah, il vaut mieux aller rouler. J'ai l'impression d'avoir cette conversation à chaque épisode.
À chaque fois, ouais.
Il vaut mieux aller rouler, faire son expérience et enlever. Et je sais plus qui avait dit ça au sujet d'une œuvre d'art quelconque. Mm-hmm. Elle est terminée quand il n'y a plus rien à enlever, en fait. C'est un peu pareil pour nous quand. Enfin, pour vous, puisque je suis pas trop bikepacking en réalité, j'en parle, mais j'aime pas trop ça. C'est pas trop mon délire en fait.
Mais en fait, il y a une règle aussi, hein, si tu veux aller dans ce sens-là, un peu au niveau bikepacking. Hein, c'est un participant, Alexandre sur la French Divide, on discutait un jour comme ça, on roulait ensemble, il me dit en fait, t'emmènes tes peurs. Tu vois, c'est-à-dire que t'as peur d'avoir froid, bah tu vas reprendre une veste de plus. Mmh. T'as peur de casser ton câble de dérailleur, tu vas reprendre un câble de dérailleur, etc. Les exemples sont multiples. Et en fait, quand tu fais ta sacoche, ce que t'emmènes, si tu rajoutes quelque chose, c'est que t'as peur de. Et en fait, tu peux simplifier. Il y a une limite, bien sûr. Hein. À un moment, faut un duvet, mais il y en a qui partent sans. Ils n'ont pas peur d'avoir froid.
Pas obligé. Tout le monde n'en emmène pas.
Mais la règle, mais que ce soit pour un voyage, même sans forcément du bikepacking, mais un voyage à vélo, une trousse à pharmacie, etc., t'emmènes tes peurs, quoi, tu vois. Et ça peut se résumer à ça aussi un petit peu, si tu veux simplifier le truc. C'est souvent ce que je conseille, quoi. Et t'emmènes ça, mais pourquoi? J'ai peur d'avoir mal au ventre, mais t'inquiète, des pharmacies, tu vas en voir, tu vas passer devant des maisons, tu vas les frapper. T'as peur de... Tu prends combien de rayons? 5 rayons? Non, c'est bon, tu vois.
Oui, voilà. on casse pas non plus notre vélo à chaque fois. Enfin, vous ne cassez pas votre vélo à chaque fois non plus. Faut arrêter le délire un peu.
Et puis, comme tu dis avant, si t'as bien testé avant, si tu t'es barré un week-end de temps en temps, si t'as testé, t'as déjà bien écrémé le truc, quoi. Mmh. Tu sais que tu vas partir avec quelque chose tu vas avoir optimisé la chose quelque part.
Un truc qui fonctionne et un truc qu'on maîtrise parce que, emmener 5 rayons, c'est super, mais tu fais quoi avec tes rayons quand t'en pètes un?
Ouais. Si t'as pas, alors ça veut dire que si tu casses un rayon contre tes cassettes, il faut que tu mettes le fouet, le démon de cassette et tout pour glisser le rayon dans le moyeu. Enfin,
ouais, alors on part dans un délire.
Tu te sais pas aller loin. Hein.
Ouais. Ouais, y a que Paul Galéa qui emmène un pédalier de rechange, mais ça, c'est autre chose.
Il est trop fort.
Non, il nous a dit il y a quelques mois qu'il avait changé de modèle et a priori ça va, il ne casse plus son vélo quand il roule. Donc bravo.
Déjà, je crois qu'il est passé du carbone à l'alu, je crois savoir. Donc ça peut-être résoudre certaines choses.
Ouais.
Mais le pire, c'est que Paul, même avec une pédale, moi je l'ai vu l'année dernière à l'arrivée de la Gravel Trop Braise, avec une pédale qui pendouille quasiment de la manivelle, il arrive encore à pédaler sur une jambe au bout d'une semaine sans avoir dormi depuis 2 nuits, enfin un truc de fou. Et puis il est quand même là, quoi. Donc, c'est un peu l'extraterrestre.
Oui, évidemment que physiquement il est fort, mais pour le suivre sur ce travail, je suis sûr que c'est ton cas également, tu vois qu'il roule toute l'année et il n'y a pas de secret.
Oui.
C'est con, mais un mec qui roule, il sera toujours meilleur qu'un touriste qui passe son temps sur les groupes gravel et bikepacking à poser des questions connes au lieu d'aller rouler.
Exact. Exact, c'est exactement ça. Il faut pratiquer et puis surtout faut dans la tête, quoi. Tu vois, c'est beaucoup. Faut pas se poser de questions. On y va, on met un pied devant l'autre, un coup de pédale après l'autre et puis ça avance. Mm. Et puis ça va très bien comme ça. Ouais.
Bon, mon petit lapin. Vu qu'on se connaît pas, je peux me permettre de t'appeler mon petit lapin.
Si ça te fait plaisir, pourquoi pas.
Moi, j'adore. je vais devoir t'abandonner. Il me semble que toi aussi, tu as des obligations à respecter.
Effectivement.
Donc, de plus, je pense que nous avons fait le tour de notre programme de la journée. donc on va pouvoir se permettre de se séparer en bons termes. Je vais néanmoins te laisser pour ta minute de solitude, te remercier pour cette heure 18 de franche rigolade. Et j'espère à bientôt, parce que comme je te le disais, juste avant le confinement, j'étais allé donner une formation à Rennes, et si on s'était connu vraiment avant, je serais allé rouler avec toi plutôt que de me taper le canal tout seul, ouais, comme un idiot.
Ça aurait été avec joie, je t'aurais fait rencontrer les amis de Fort Rose, les pratiquants de gravel sur Rennes.
Mais grave, gravel.
Ça aurait été avec joie. Ouais.
Mais oui, plutôt que d'aller rouler tout seul comme un crevard le matin et le soir, j'aurais été quand même beaucoup mieux.
C'est que partie remise.
Mais ça reviendra. Bon, mon petit Yvan, à très bientôt, merci. Comme promis, tous les liens utiles, et notamment Ramène ta fraise et Fort Rose, seront en lien et même un petit peu plus. Je vais pousser un petit peu plus à ce niveau-là.
Super.
Et voilà, merci pour tout. À très bientôt. Minute de solitude, c'est à toi. Salut.
Ok, minute de solitude. C'est vrai que je l'avais pas vu venir, celle-ci. Enfin bon, bref.
Tant pis pour toi, je suis pas encore parti.
Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter de beau? Je vais reprendre un petit peu ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire qu'on a tous des rêves hein, dans la vie, ça c'est une certitude. Et puis, il faut aller au bout. Alors, d'une manière ou d'une autre, on doit s'en donner les moyens. Parce que souvent, après, on peut regretter. Et puis surtout, pourquoi pas, faut pas se trouver d'excuses. C'est-à-dire que si un jour, vous avez envie de faire Ramène ta fraise, vous dites, mais je suis pas prêt, je sais pas, non. On se donne les moyens, on y va, on va faire une GTB, il faut réussir à virer ces excuses qui nous pollue un petit peu parfois, et puis réussir pourquoi pas à se faire plaisir, à voyager, à rencontrer, à rester dans l'humain, à se reconnecter, se reconnecter, c'est super important, les rencontres, et puis vivre l'aventure. Je salue tout le monde, et puis pourquoi pas sur les chemins bretons ou ailleurs, à l'occasion. Voilà, salut Richard, à bientôt et longue vie à Spotzel. Ciao.